Connaît-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous. Et oui, il est midi et des poussières tout pile en sud Lozère, l'heure de... passer un moment radiophonique ensemble sur les ondes du 107FM ou sur les internets radiobartas.net. Au programme aujourd'hui dans cette émission, on va parler du film documentaire Nits Island, où les frontières entre le vrai et le faux, le réel et la fiction sont toutes mélangées. On va parler des préparatifs du carnaval de Florac. Et le carnaval, c'est aussi un peu ça d'ailleurs, le brouillage des frontières entre le réel et la fiction. On se déguise, on ne sait plus qui et tout est permis. Mais d'abord, nous sommes le mardi 27 janvier. Il reste encore quelques jours pour se souhaiter une bonne année et c'est ce qu'a fait jeudi dernier Stéphane Morin, le président du Parc National des Cévennes, qui adressait à ses équipes, ses partenaires et ses invités ses vœux pour l'année à venir. Je suis allée y promener les micros de Radio Barthas. C'était l'occasion de lui demander ce qu'il souhaitait, lui, Stéphane Morin, au Parc pour 2026.
Plein de belles choses. Il nous attend beaucoup de défis, notamment au niveau de la charte qui a été reconduite, mais qu'on doit améliorer. Donc tout ce qui fonctionne bien, on veut le poursuivre. Mais il y aura des points de vigilance et d'attention sur le reste. On a quand même beaucoup de défis, notamment tout ce qui tourne autour du changement climatique. Voilà, donc ça a fait l'objet de réflexions lors de notre conseil d'administration d'aujourd'hui. Voilà, et puis on a essayé de l'enrichir, et puis maintenant tout le monde va se mettre au travail, toutes les instances, les commissions, le CESC, mais également le CS, le conseil scientifique, et je pense que on devrait pouvoir accoucher en tout cas d'une charte de qualité qui en tout cas permettra de conforter le tissu économique qu'il y a sur le territoire.
Et est-ce que vous pourriez nous dire où en est la menace de fusion avec l'Office français de la biodiversité ?
Alors effectivement, vous avez bien raison de le souligner, le combat n'est pas fini. Je pense qu'il faut être vigilant. Voilà, je pense qu'en tout cas, le gouvernement et les ministres ont entendu qu'il était quand même bien indispensable de maintenir des opérateurs tels que les établissements publics des parcs nationaux. Je crois qu'il y a eu un collectif qui s'est monté, qui a fait preuve vraiment d'abnégation et qui a avancé des arguments. Les parcs nationaux, ça pèse 75 millions d'euros, 9 millions d'euros à peu près pour le parc national des Cévennes. Il y a tellement de choses qui se font avec finalement si peu d'argent que je me dis que à s'attaquer aux parcs nationaux, c'était vraiment couper finalement la dynamique qu'il y avait sur nos territoires, et notamment en termes de préservation, de sensibilisation. Et je pense qu'il faut vraiment le mettre au cœur du village, au cœur de notre territoire. Et donc le combat n'est pas encore totalement gagné. Et il faudra qu'on se montre vigilant et on a un collectif pour l'être, quoi.
Et est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les grands projets du parc pour 2026 concrètement ? Qu'est-ce qui vous attend ?
Alors personnellement, moi il y a un sujet sur lequel je suis vraiment très attentif, c'est l'enquête sur la ressource en eau au niveau du Mont Lozère, avec des communes pilotes, et voir un petit peu comment quelles sont les réserves, quelle est la qualité de l'eau sur le territoire. Et ça peut ouvrir de belles perspectives pour l'avenir, et ou alors de se montrer en tout cas vigilant sur comment on va utiliser l'eau dans les prochaines années. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir le faire. Alors c'est une étude qui est totalement bouclée financièrement, pratiquement, qui sera aux alentours du million d'euros. Voilà, et je pense que j'aimerais en tout cas la voir aboutir pour qu'on puisse en tout cas travailler sereinement sur cette problématique qui arrive à grands pas, et on le voit encore aujourd'hui, les problématiques de l'eau touchent un certain nombre de communes, et je crois qu'en Lozère on n'est pas épargné, même si c'est le pays des sources, il faudra être vigilant. Donc il y a ce projet-là qui me tient particulièrement à cœur et qui tient particulièrement à cœur du conseil d'administration. Il y a aussi la modification de la charte, une plus-value qu'on doit absolument apporter, donc elle a été reconduite, mais on on peut en tout cas, le parc national des Cévennes est un laboratoire, c'est là où on peut expérimenter. Donc je me dis que si on doit apporter notre contribution dans la charte, il faudra ne rien oublier et essayer de vraiment en tout cas faire force d'innovation pour qu'on puisse en tout cas répondre aux enjeux qui nous attendent. Voilà, et donc je pense que tout le monde est au travail, et donc ça fait partie aussi des perspectives qui s'offrent à nous sur 2026. Voilà, et puis il y en a tant d'autres mais que je ne pourrais pas forcément
On peut peut-être évoquer l'année internationale du pastoralisme qui va certainement occuper grandement le parc national des Cévennes.
Tout à fait, voilà, donc ça aussi c'est un grand projet, hein, effectivement, qui touche en plus tous les publics. Je pense que justement c'est souligné dans la charte du parc, mais je crois qu'il faut vraiment axer notre discours, et notamment sur ces projets-là, autour de la jeunesse, parce que c'est eux qui véhiculent aussi, qui sont un peu les passeurs de mémoire, les passeurs d'innovation. Et je pense que si on y associe la jeunesse, on a plus de chances d'aboutir à un projet bien ficelé. Et donc effectivement, il va y avoir beaucoup d'animation autour de cette année du pastoralisme et des parcours. Il y a aussi d'autres défis qui nous attendent. C'est-à-dire, quand on parle de pastoralisme, il y a aussi la problématique du loup. Nous, au Parc national des Cévennes, on n'a pas voulu en faire un sujet tabou. Donc on veut vraiment le mettre sur la table, que vraiment on puisse en discuter, qu'on ait une connaissance commune pour échanger convenablement. Parce que jusqu'à présent, ce qui se passait aussi, c'est que chacun avait des connaissances qui étaient différentes les uns des autres. Et donc du coup, ça nous bloquait dans les échanges, dans la réflexion. Et donc on a essayé de mettre ça en place. Donc on va faire ce qu'on appelle des forums, c'est prévu, et sur des thématiques bien différentes. Mais là, ça en est une liée notamment au pastoralisme, parce que si on veut garder des milieux ouverts, il faut qu'il y ait des agriculteurs. Et il faut qu'il y ait justement des transhumants. Donc il y a tous ces enjeux-là. Et avec une autre aussi difficulté, ce sont les chiens de berger, les patous, qui posent aussi quelques difficultés en matière de tourisme. Donc là aussi, il va falloir bien réfléchir à la chose pour qu'on puisse concilier à la fois le pastoralisme, qu'on puisse concilier la protection de ces transhumants et tout le reste. Donc beaucoup de défis.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Midi et des poussières.
Et à Fleurac se prépare un grand événement festif, populaire, collectif, rassembleur, participatif, créatif. C'est le carnaval. Le foyer rural La Source a fédéré une grande équipe d'organisateurs et d'organisatrices pour gérer tout ça. L'une et l'un d'entre eux sont passés hier par Radio Bartas pour nous en dire un peu plus sur ce qui s'annonce. Et je suis ravie d'accueillir dans le studio Natou et Clément. Salut.
Bonjour.
Alors vous faites partie tous les deux de la team qui organise le carnaval de Florac. Carnaval avec un K, Florac avec un K aussi peut-être pour l'occasion.
Pas forcément, mais pourquoi pas.
On ne s'est même pas posé la question.
En tout cas, ce carnaval, il aura lieu encore dans un petit moment. C'est pas tout de suite, c'est le 28 mars.
Tout à fait.
Mais d'ici là, il va se passer des choses pour le préparer. C'est un gros événement. Ça fait peut-être à peu près, Clément, tu me disais avant de rentrer dans le studio, peut-être une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu de carnaval ici.
Ouais, un truc comme ça. Moi, j'ai assisté à la dernière édition du carnaval qui était organisée par Jean-Louis Boutonnet à l'époque. Et oui, il me semble que c'était vers 2016-2017 par là.
Il y a déjà eu une édition l'année dernière.
Oui.
Alors c'était un peu l'édition bande-annonce en effet, et puis pour récolter des fonds en vue de l'événement de cette année. Mais la différence c'est que l'an dernier, il n'y a pas eu de défilé.
Il n'y a pas eu de défilé, et donc c'est ce qui va se passer cette année. Et alors pour organiser tout ça, il faut un peu d'argent déjà. C'est le nerf de la guerre. Hein.
Et oui, comme partout.
Voilà. Et du coup, vous organisez un grand loto.
Effectivement, on organise un loto le 8 février, le dimanche 8 février. Et du coup, ça se passera à la salle des fêtes de Florac à 15h, avec une ouverture des portes un peu avant, histoire qu'on puisse démarrer vraiment autour des 15h.
Qu'est-ce qu'il y a à gagner à ce loto?
Eh bien, écoute, je vais peut-être te laisser en parler, Natou, parce que t'es un petit peu...
Des lots variés et incroyables. On a eu pas mal de dons. On a vraiment tapé à toutes les portes de la Lozère, presque. On a eu Tufféry. On a eu aussi beaucoup de restaurateurs floracois qui nous ont offert des repas. Des créateurs, des créatrices, le Grand Magasin, Intermarché, Bazar Land, etc. Et on est allé jusqu'à Mende, où on a des lots, notamment la piscine municipale et d'autres petites surprises. Voilà.
C'est bien parce que du coup, ça permet aussi de fédérer un peu tout le monde autour de l'événement, quoi, de faire cette activité, enfin, ce loto-là en avance en sollicitant un peu des commerces, des partenaires.
Carrément. Et puis, il y a une vraie volonté aussi que ce carnaval-là, organisé par le Foyer Rural, rassemble les populations de Florac dans un vrai moment de convivialité et autour de quelque chose qui est très populaire et très chouette à vivre, qu'est le loto.
C'est voilà. Vrai, moi si je peux rajouter un petit mot, c'est vrai que cet événement, l'idée c'était pas de faire un événement clé en main et que un événement, on va dire, de pure consommation, c'était l'idée de faire vraiment participer tous les acteurs du territoire, les habitants, les assos. Du coup, c'est vrai que là, le loto, déjà, ça nous fait un coup de com' et ça permet de fédérer autour de l'événement. C'est sympa et puis en plus, ça permet de récolter 3 sous pour pérenniser le projet, quoi.
Et donc, ce sera animé par toi, Natou, le loto ?
Et ben justement, j'allais en parler. Et ben non, ça ne sera pas animé par moi. On a la chance qu'Éric Pelat, qui est le président du comité des fêtes de Florac, nous donne du coup la possibilité de présenter.
Et après ça, donc ça c'est un premier moment, donc le 8 février, grand loto pour voilà, récolter des fonds et poursuivre la préparation du carnaval. Et après, pendant le mois de février, il y a toute une série d'ateliers aussi qui sont prévus.
C'est ça, et du coup, pour continuer sur le fait que les habitants soient acteurs de leur projet, en fait, on propose 4 journées d'ateliers participatifs. Donc c'est 4 samedis qui se suivent, les 14, 21, 28 février et le samedi 7 mars. Donc il y aura 3 ateliers distincts lors de ces journées, un pour fabriquer un char, d'autres pour créer des costumes et un dernier sur la signalétique et la décoration pour l'événement.
J'ai déjà vu last weekend un panneau sur le rond-point juste après le carrefour là. C'était chouette.
Effectivement. Mais on remercie toutes les personnes qui s'investissent, notamment là c'était Lucas, Carlotta, qui font partie du comité d'organisation, mais qui se sont aussi investis beaucoup sur le loto les derniers jours là.
Et moi je citerai aussi l'association Los Potasso qui sont quand même à l'origine de la relance de l'événement. Donc c'est vrai que l'événement a été pris sous la coupe du Foyer Rural grâce à une subvention qui nous est allouée par la CAF de Lozère. Nous on est agréé espace de vie sociale et grâce à ça moi je peux accorder du temps de travail au projet. Donc par ce biais-là, en fait, ça facilite l'événement, mais on est vraiment en partenariat très étroit avec l'association Los Potasso.
Et est-ce que pour participer au loto, il faut s'inscrire ou est-ce que les places sont illimitées ? Comment ça se passe ?
Alors, elles ne sont pas illimitées, mais on a quand même prévu assez. On a prévu pour 200 à 250 personnes. Donc si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis, il y aura plus de lots. sachant que sur le loto, pour reparler juste de cet événement-là, il y a quelques surprises qui dénotent un peu des lotos traditionnels. Il faudra venir voir pour le vivre.
Tu vas rien nous dire de plus que ça.
Rien.
C'est cruel quand même. On a envie d'un peu plus de teasing. Mais ok, il faudra donc être présent le 8 février. Et est-ce que vous avez déjà des idées pour vos costumes ou pas ? Ou c'est encore un peu tôt là ?
Moi, je sais déjà.
C'est vrai ? Et tu vas rien nous dire
ça
non plus,
j'imagine. Ça fait des mois que je le prépare. Je peux donner un indice.
Ah.
Ce serait plume.
Ouh, plume. Et toi, Clément ?
Moi, je pense que ce sera un petit peu comme l'an dernier. Donc, il y en a qui savent déjà. Mais sinon, je donnerai un indice aussi. Je dirais Guerre des étoiles.
Allez, et ça donne très envie, très hâte de voir tout ça en place. Et donc, rendez-vous le 8 février, alors.
Ouais, à 15h, à la salle des fêtes.
Merci beaucoup, Clément Natou, d'être venu.
À bientôt.
À bientôt.
Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canto meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.
C'était Mania des Carnavals sur Radio Bartas. Magnifique morceau signé Luis Bonfa pour la musique et Antonio Maria pour les paroles. Et c'est le thème principal de la bande originale du film Orfeo Negro de Marcel Camus, sorti en 1959. Très très beau film que je vous recommande. C'est une adaptation libre et musicale du mythe d'Orphée et d'Eurydice à Rio pendant le carnaval, bien sûr.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Vous êtes bien sur Radio Bartas et oui, il est toujours midi et des poussières. Et ce soir, à Florac, lorsqu'il sera 20h30, vous pourrez assister à la Jeunette Verte à une expérience cinématographique et sociologique hors du commun que propose La Nouvelle Dimension en partenariat avec le Floracopoli. C'est la projection d'un film documentaire entièrement tourné à l'intérieur d'un jeu vidéo. Le film s'appelle Nits Island et le jeu vidéo, c'est DayZ, un simulateur de survie en ligne. Le décor du film, c'est donc l'univers l'univers du jeu, une île virtuelle où une épidémie mystérieuse a transformé la plupart de la population en êtres infectés agressifs. Pour survivre, chaque joueur doit récupérer de la nourriture, de l'eau, des armes et des médicaments, tout en esquivant, voire en tuant les zombies infectés, et peut choisir de coopérer ou pas avec les autres joueurs. Alors sous les traits d'Avatar, les trois réalisateurs du film, Ekiem Barbier, Guilhem Kos et Quentin Lelgouache, pénètre ce lieu et entre en contact avec des joueurs pour comprendre qui sont ces habitants, sont-ils réellement en train de jouer. C'est une expérience troublante où les frontières entre réel et fiction se brouillent pour laisser finalement apparaître une forme de vérité. Boris Garavini est le producteur de ce film avec sa boîte de production Les Films Invisibles. Ils ont porté ce documentaire. Il sera là ce soir pour échanger avec le public après la projection. Et moi, j'ai échangé avec lui par téléphone ce matin pour vous proposer un petit avant-goût et vous donner envie de voir ce film ce soir. Et j'ai commencé par lui demander de nous raconter d'où est venue l'envie de faire ce film, comment tout a commencé.
Bonjour tout le monde, tout d'abord. Le point de départ, il remonte à 2017, il remonte à assez longtemps. À ce moment-là, Ekiem, Guilhem et Quentin, les trois réalisateurs du film, viennent de produire un film à la sortie des Beaux-Arts de Montpellier qui s'appelle Marlowe Drive. Et c'est déjà une première enquête, une première plongée dans un univers vidéoludique dans lequel ils vont incarner un avatar, un corps physique dans le jeu, et poser des questions à des joueurs en ligne. Et il y a déjà la question d'aller dans un espace un petit peu inconnu. Le monde des jeux vidéo, enfin, les jeux vidéo sont un sujet assez débattu, sur lequel il y a quand même beaucoup de préjugés aussi. Et moi, je vois ce film en 2017, comme montre un ami, ce sont des amis d'amis. Et je découvre déjà un mode opérateur que j'ai jamais vu, du documentaire dans un monde virtuel. C'est quelque chose qui n'existait quasiment pas avant, à part dans les dernières tentatives de Chris Marker d'appréhender cet univers-là, qu'il était déjà assez âgé, mais Chris Marker qui est un documentariste français.
Qui avait fait un film dans Second Life, qui avait écrit tout un monde dans le jeu vidéo Second Life.
Ouais, tout à fait. Et donc il y a ça comme référence, et il y a ce que font ces garçons-là. Et d'emblée, ça me fascine, et j'ai jamais vu ça. Donc moi, je vais les rencontrer et je leur dis à quel point j'ai aimé leur projet, cette première tentative-là. Et on se propose de continuer cette réflexion-là à travers un objet plus construit, plus produit, qui deviendra Nits Island 7 ans plus tard. Et donc, c'est à la base de, sans préjugés, sans jugement, d'aller dans cet univers-là et de rencontrer les joueuses et les joueurs pour tenter de comprendre quel plaisir ils trouvent à évoluer en ligne, quel type de relations ils ont et comment par extension tout ce monde qu'on dit virtuel peut être considéré comme réel. Quelle est la part de réalité dans le virtuel ? Ça, je pense que c'est la première idée qu'on a en tête.
Et comment est-ce qu'elle a été pensée, alors la mise en scène ? Est-ce qu'il y avait un scénario au départ ou est-ce que le film il s'est écrit plutôt au moment du montage ou est-ce qu'il y avait quand même un peu un déroulé, une histoire
Il s'est écrit au moment du montage, évidemment, grâce à Nicolas Bansion. Enfin, je dis évidemment, c'est pas forcément clair, mais c'est vrai que pour eux, c'était un premier. Ils venaient des Beaux-Arts, donc c'était aussi une première incursion dans le monde du documentaire. Donc, on a dû écrire des dossiers pour financer le film. Et à ce moment-là, on a besoin de codifier un petit peu la structure narrative. Et donc, ça, on l'a fait avec différents partenaires qui nous ont aidés à écrire. Mais sinon, l'idée du film était assez simple. C'est une plongée à la première personne dans un monde et le film fait le récit de cette aventure chronologique. Donc c'était pas si compliqué finalement à mettre en place et à écrire. On savait que voilà, on allait devoir faire des choix au montage parce qu'on a beaucoup tourné pendant presque plus de 180 heures. Donc le gros défi c'était de réarticuler, réorganiser la matière. Mais on savait qu'on allait filmer pendant 3 ans et que le film ferait le récit de ces rencontres.
Tu dis que c'est un récit à la première personne, mais pourtant il y a trois réalisateurs. Moi, je m'imaginais que du coup, il y avait trois joueurs et que ça pouvait démultiplier leurs expériences, leurs rencontres, leur exploration du territoire. Mais en fait, ils étaient tout le temps en équipe, tous les trois ensemble.
Oui, alors je dis première personne, hein, mais effectivement, il y a trois auteurs, donc Ekiem, Guilhem et Quentin, qui décident dans ce film-là d'incarner chacun un avatar et de rentrer dans le jeu. Et effectivement, il y a un des personnages qui tient la caméra, on va dire. En fait, le film est filmé en capturant l'image de l'ordinateur telle qu'elle est vue par Quentin, le réalisateur qui cadre. Et ensuite, on a Ekiem, un autre réalisateur qui va interviewer les gens, donc qui avait lui un micro pour capturer sa voix, et c'est lui qui va poser les questions au moment de rencontrer les gens. Et Guilhem, lui, était plutôt un technicien en retrait, qui était chargé d'aller récupérer de la nourriture, parce que c'est un jeu, on a filmé dans un jeu de survie qui est assez compliqué, assez dur. Et donc, il fallait quand même jouer au jeu en même temps que de fabriquer le film, ce qui était aussi un des grands défis. Donc oui, quand je dis première personne, c'est leur point de vue à tous les trois qui nous permet d'aller à la rencontre des protagonistes du film.
Et la matière visuelle qui ressort de ça, bon, moi je précise que j'ai pas encore vu le film, hein, j'ai hâte de le voir ce soir, mais j'ai vu la bande-annonce et quelques images. La matière visuelle, elle est vraiment très cinématographique. On déambule dans ce monde-là. Bon, déjà le graphisme du jeu, il est assez beau, très travaillé, et c'est vraiment propice à la contemplation. Il y a même une joueuse, un moment, qui est donc interviewée par cette équipe de tournage mise en scène dans le documentaire, qui évoque le plaisir qu'elle a à se relaxer dans la fausse nature du jeu. On voit des faux arbres qui se balancent sous l'effet d'un faux vent, mais ça crée quand même de la beauté, de la sensibilité.
C'est toute l'ambiguïté et le paradoxe de cet univers. C'est vrai qu'on est là à se demander pourquoi est-ce que des joueurs, et notamment tu parles de cette joueuse qui vient du Canada, on a un autre joueur qui est en Afrique du Sud et qui nous dit j'ai tellement de plaisir à me balader dans cette nature-là, et d'emblée on se dit mais pourquoi et où trouve-t-on du plaisir à se balader dans une fausse nature? Et après avoir passé du temps avec eux, on commence à comprendre effectivement, et on n'a pas envie, on laissera à tout un chacun le loisir de trancher cette question-là. Voilà, est-ce qu'on peut avoir du plaisir en se baladant dans une fausse forêt? Personnellement, je pense qu'il y a un temps pour tout, et je peux comprendre la beauté qu'on peut avoir, enfin, l'émotion qu'on peut avoir à observer un coucher de soleil dans un jeu vidéo d'une super facture, et l'émotion est réelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'aller se balader dans les forêts environnantes de Florac ou de chez moi à Alès. Donc, les deux sont possibles. Voilà, je pense qu'il ne faut pas. Et voilà.
Il y a une véritable mise en abîme, parce que nous, on est spectateurs et on regarde aussi un film dans lequel il y a un faux coucher de soleil. Donc, en fait, ça questionne aussi tout notre rapport à l'image, et on peut ressentir des émotions très vraies, très fortes, même avec des images qu'on n'a pas nous-mêmes expérimentées réellement. C'est le principe aussi du cinéma.
Oui, et c'était vraiment l'idée d'arriver à surprendre les personnes qui allaient regarder le film et qui potentiellement avaient des préjugés, parce qu'effectivement, sous cette forme-là, il y a assez peu d'études sur le jeu vidéo, en tout cas à travers des objets, on va dire, anthropo, ethno, cinéma, enfin voilà, qui prennent le temps de nous laisser entreapercevoir ce que vivent vraiment ces gens-là. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on a voulu conduire cette expérience-là sur près de 3 ans, pour avoir le temps de comprendre les joueurs, leur motivation, les joueuses, etc. Donc, voilà. Mais l'idée, c'était effectivement de surprendre les gens et d'aller au-delà des préjugés. Et tout le film, sur la première partie, vous allez le voir, conforte un peu nos préjugés, un jeu un petit peu violent dans lequel les gens vont chercher quelque chose de très cathartique, et ensuite ça se révèle et on comprend que les joueurs vont aussi chercher autre chose. Il y a l'idée d'un refuge aussi, d'aller trouver quelque chose qu'on n'a pas forcément dans le monde réel.
Le film, il a quand même eu un certain succès critique et aussi public. Il a été sélectionné dans de nombreux grands festivals de documentaires. Il a eu des prix, donc déjà bravo. Et vous avez accompagné en tant que producteur le film, enfin toute l'équipe. Vous avez assisté à plusieurs projections. Toi, de ton expérience, qu'est-ce qui ressort des projections? Comment est-ce que le public réagit? Qu'est-ce qui les touche? Qu'est-ce qui les intéresse là-dedans?
Oui, le film a beaucoup voyagé, donc il a connu sa première en 2023 dans un festival suisse qui s'appelle Vision du Réel, et depuis on l'a accompagné dans près de 120 festivals. On s'est pas déplacé à chaque fois, évidemment. Ce qui nous frappe, c'est justement cette tranche d'âge, cette génération, je veux dire, entre peut-être 50 et 70 ans, des gens qui n'ont pas beaucoup joué aux jeux vidéo et qui, par un effet de hasard, se retrouvent dans la salle et qui nous disent, mais c'est incroyable, j'imaginais pas du tout que ce monde pouvait être aussi riche et les interactions pouvaient être aussi riches, et vraiment ça change ma vision du jeu. Ça c'est les retours qui nous ont fait le plus plaisir, je pense. Enfin, en tout cas moi, en tant que producteur qui accompagnait ce film pendant très longtemps, d'arriver à modifier un petit peu la perception des gens sur le monde du jeu en général. Mais plus que le monde du jeu, c'est un film qui parle des rapports qu'on peut entretenir en ligne, et on a choisi le monde du jeu parce que c'est quelque chose dans lequel on pouvait s'incarner physiquement avec un avatar, mais ça parle autant de nos rapports sur les réseaux sociaux, sur nos conversations en ligne. Enfin voilà, vous allez voir, c'est un petit peu plus large que ce que le sujet de départ nous promet.
À notre époque où on voit, moi ça m'a fait penser à ça, je sais pas si c'est pertinent, mais à l'époque où, avec l'intelligence artificielle et tous ces outils génératifs qui produisent de plus en plus de faux, que ce soit des images, des sons, des textes, des musiques qui sont générées par intelligence artificielle, ça devient de plus en plus indécelable. Et on est presque voué à vivre un peu dans le doute permanent, de ne pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ici, j'ai l'impression que dans ce film, peut-être aussi ce que recherchent les joueurs, c'est que au moins, on sait que c'est faux. Il n'y a pas de doute possible. Et donc, ça nous permet de nous réapproprier en fait ce faux-là et de faire advenir du vrai dedans. Il n'y a pas de confusion possible. On sait qu'on est dans le virtuel.
Oui, c'est une belle remarque. La question autour de l'IA et du faux, elle n'est pas forcément très prégnante quand on fabrique le film, puisqu'on est en 2018 et on a l'impression que c'était une vie avant, alors que l'IA générative telle qu'on la connaît est apparue il y a quelques mois, on va dire. Mais effectivement, tout le monde est conscient qu'on est en train de jouer un jeu, dans la mesure où effectivement on arpente un territoire virtuel et tout le monde connaît les règles. Et effectivement, c'est comme un grand théâtre d'improvisation en ligne auquel les joueurs et les joueuses vont s'adonner. Et tout le monde est conscient des règles du jeu et le fait en pleine conscience. Et effectivement, ça donne des résultats assez bluffants. Et comme tu le dis, le fait que tout le monde soit conscient des règles comme ça, c'est ce qui fait la beauté de cette pratique.
Eh ben, moi, j'ai très hâte de découvrir le film. C'est donc ce soir à 20h30 à la Jeunette Verte de Florac. Et toi, tu seras là, Boris, pour échanger avec le public à la fin du film.
Oui, tout à fait. Je répondrai à vos questions si vous n'avez pas tout compris.
Super, et ben voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant. Rendez-vous ce soir. Merci beaucoup, Boris.
Merci, Raphaël. Salut.
Salut.
Midi et des poussières.
Et comme chaque mardi, désormais, c'est l'heure de la Minute de Masque. La semaine prochaine, il y aura un petit générique pour annoncer un peu plus dignement ce moment où Max nous fait découvrir un morceau qu'il aime et qui l'accompagne depuis longtemps dans sa vie. Il est passé hier dans le studio de Radio Bartas. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs, Max. Salut Max.
Salut.
Qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui?
Alors on va écouter un morceau de Nino Ferrer, Wesson, qui n'est pas forcément le plus connu. Mais qui, musicalement, moi, me plaît beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que je pense que c'est un morceau où on peut tout entendre et tout faire quasiment dessus. La vaisselle, se reposer, danser, enfin, il y a un peu de tout. Mais c'est un peu comme tous les morceaux de Nino Ferrer, c'est musicalement, c'est très complet. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu. Grâce à un ami qui était proche d'un groupe alternatif dans le début des années 80 et qui m'a parlé de lui par rapport à sa section de cuivre. Et c'est vrai que si on aime les cuivres, il faut écouter Nino Ferrer. Et là, voilà, comme ça, j'ai choisi celui-là parce que vraiment, je trouve que c'est un super morceau.
Et c'était quoi le groupe alternatif de ton ami ?
Les Satellites.
Et on peut trouver encore des morceaux de eux sur Internet, tu penses ?
Je pense, oui. Je pense que ça fait un moment qu'il joue plus, mais oui, il y a des morceaux d'eux sur... Mais peut-être à l'occasion, on en écoutera.
Et c'est quoi le premier morceau d'Ino Ferrer que t'as écouté ? T'en as le souvenir ?
Le premier, je sais pas, peut-être comme tout le monde, un peu peut-être Mirza. Mais après, j'ai bien aimé son premier album, où c'est pareil, il y a pas mal de morceaux musicaux. De toute façon, Ino Ferrer, c'est pas forcément ses textes hein, qui sont très intéressants, même si c'est assez rigolo et pertinent des fois. C'est vraiment musicalement que je trouve très bien. Notamment, voilà, ses cuivres. Notamment, il a fait beaucoup d'albums avec un super guitariste, des choses comme ça.
Eh ben, on écoute Wesson de Nino Ferrer sur Radio Bartas. We'll be right back. Ça s'arrête dans une vague. C'est tout un monde, tout un voyage.
Oui, non, le ressac fait partie d'un super instrument de musique.
C'est une grande traversée complètement libre, quoi, vers Ouessant, là. Vers l'île de Ouessant, en Bretagne.
Mais ça fait partie aussi d'une époque où, soi-disant, il n'y avait pas de groupe ni de chanteur qui faisait un peu de la pop-rock comme les anglo-saxons. Alors qu'en fait, par exemple, moi j'ai grandi dans cette idée-là, alors que c'était un mensonge. Il y avait des gens comme ça qui faisaient d'excellents morceaux.
C'est vrai que là, il y a un côté très rock. Mais c'est marrant parce qu'au début, ça commence avec des percussions comme ça, dans un style tout autre. On ne s'attend pas à ce que ça bascule vers un truc très rock. Bah, merci pour cette découverte, Max.
Mais avec plaisir.
C'est chouette parce qu'en plus, ça fait vraiment écouter les morceaux avec beaucoup d'attention. Quand on est comme ça dans le studio, c'est très solennel.
Ouais, mais là, en plus, celui-là, moi j'aime bien l'écouter fort, à fond. Excellent.
C'était peut-être pas assez fort là d'ailleurs.
Non, mais bon, chacun a ses goûts après.
Eh ben, à la prochaine alors pour une nouvelle découverte.
Mais à bientôt, avec plaisir.
Salut.
Salut.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Midi et des poussières, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, sur Radio Bartas, 107FM si vous êtes proche, et sur radiobartas.net si vous êtes un peu plus loin.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.